Notre invité du jeudi aujourd'hui sera Henri Landès, qui nous parlera de son dernier ouvrage « Repeupler les campagnes », un livre qui vient tout juste de sortir. Donc on va le retrouver dans quelques instants pour nous parler de ce livre « Repeupler les campagnes ». Notre invité, Henri Landès. Bien aujourd'hui, on va retrouver Henri Landès pour parler de son dernier essai, son dernier livre qu'il a fait pour repeupler les campagnes. Donc il est avec nous. Henri, bonjour.
Bonjour.
Alors bon, vous avez écrit ce livre. Moi, je dirais, pour commencer, n'est-ce pas un peu une utopie ?
Ce qui est utopique, c'est d'imaginer qu'on pourrait continuer à vivre de manière si déséquilibré, déconnecté de la nature et s'en sortir. C'est-à-dire que c'était une utopie il y a un demi-siècle et même un peu plus de penser que nous pourrions vivre autant en ville et être si peu nombreux à peupler les campagnes, justement. Donc je pense qu'aujourd'hui nous sommes obligés d'être un peu idéalistes mais aussi réalistes sur comment on devrait se répartir sur le territoire et que pour des raisons de changement climatique, des raisons de vie dans les campagnes, de bien-être des personnes qui produisent la nourriture, qui produisent les objets, les artisans et les familles, c'est quelque chose de nécessaire de revoir notre répartition sur le territoire et de repeupler nos campagnes.
Alors, bon, vous êtes le parfait exemple, hein, puisque vous avez quitté Paris pour venir vous installer dans une petite commune de la Haute-Loire à Boissey. C'était une évidence pour vous, il fallait le faire.
Oui. Nous, on a voulu, pour des raisons de santé, des raisons de cohérence sur le plan écologique, pour des raisons aussi de proximité avec les agriculteurs, avec les artisans, avec la nature, on a voulu changer de vie. Et nous sommes plus heureux aujourd'hui que nous étions quand on habitait en ville. On avait, entre guillemets, sur le papier, tout pour réussir. On travaillait chacun dans des métiers qui étaient bien reconnus. Ma femme travaillait à France Télévisions et animait une des émissions historiques de la télé. Thalassa, je dirigeais la fondation Good Planet qui était une des plus, et qui est toujours, une des organisations sur la préservation de l'environnement la plus connue en France. Et nous étions en revanche pas satisfaits de comment nous vivions parce que nous estimions que nous étions trop loin de la nature, trop loin aussi de beaucoup de personnes et d'entreprises et d'organisations qui sont essentielles justement dans notre quotidien, et nous étions aussi loin de la nature et on voulait être à la fois plus proche de la nature et plus éco-responsable, et aujourd'hui on l'est.
Alors vous êtes une preuve vivante, hein, puisque vous avez tout lâché pour venir vous installer à la campagne. C'est quand même un petit peu compliqué parce que pour travailler, bon, c'est maintenant qu'il y a le télétravail, il y a plein de choses, mais il faut quand même se déplacer, hein. C'est pas simple de travailler à Boissey.
Oui, le télétravail est un des facteurs qui différencie ce que j'anticipe comme un nouveau retour à la campagne ou un petit exode urbain dans un premier temps, et que je préconise être beaucoup plus large, parce que effectivement on peut imaginer davantage de personnes qui gardent leur métier dans des villes et qui peuvent vivre dans des campagnes, même dans la ruralité profonde. En revanche, je pense qu'il faille avoir beaucoup de personnes qui télétravaillent un petit peu et qui sont encouragées même par leur entreprise de télétravailler. Télétravailler, ça doit être un complément au travail en présentiel. Ça peut pas marcher non plus en exclusivité. C'est même pas très bon pour la santé, oui, et pour l'efficacité, la cohésion d'équipe. Donc le télétravail, ça doit être quelque chose en complément. Mais c'est quelque chose qui permet d'être un petit peu plus confortable dans des déplacements pour le travail, justement. en entreprise, dans une organisation. Donc c'est clairement un facteur qui permet d'être un petit peu plus éloigné des villes et de vivre en meilleure santé la plupart de la semaine. Parce que si on télétravaille 2 voire 3 jours de la semaine, d'un coup, la semaine, elle ressemble à quelque chose de très différent quand on devait se rendre dans les locaux d'une entreprise 5 jours par semaine. Par ailleurs, il faut aussi se rendre à l'évidence que beaucoup de personnes se déplacent dans des agglomérations urbaines, même en transport en commun, oui, pendant 1 heure chaque trajet. Et cela n'est pas nécessairement très positif pour la santé. Donc, d'un point de vue organisation, bien-être au travail, on n'est pas nécessairement perdant parce qu'on va vivre dans les campagnes et qu'on passe plus de temps à se déplacer. Ça, c'est vraiment une idée fausse à déconstruire. Ensuite, est-ce que nous pouvons nous déplacer différemment dans les campagnes? Absolument. C'est-à-dire que nous avons les transports en commun, ça peut augmenter dans quelques petites villes rurales, petites communes rurales. Et ensuite, il y a des innovations à développer autour du covoiturage et l'autopartage. Il y a plusieurs initiatives que je mentionne d'ailleurs dans le livre sur comment des petites communes et des collectivités territoriales rurales travaillent avec une entreprise qui a permis de développer le covoiturage avec beaucoup plus de facilité que d'habitude. Et une entreprise qui reconnaît que 80% des trajets en France sont quand même en voiture. Et enfin, je parle de cela en ce qui concerne le déplacement et l'usage de la voiture individuelle dans la campagne. Il faut aussi ne pas se rougir, s'auto-flageller dans les campagnes à cause de cette empreinte carbone due à la voiture. La voiture, elle est utilisée différemment dans les campagnes. Et dans les zones urbaines, on en a moins besoin parce que nous avons un système où les transports en commun sont plus logiques. Et tant mieux. Dans les zones urbaines, la voiture individuelle est vouée à disparaître. Elle devrait. Il y a beaucoup de grandes agglomérations, d'ailleurs, en dehors de la France, en Europe, où on voit la voiture vraiment prendre une place très, très peu importante dans la vie quotidienne des personnes. Et cela est un exemple à suivre parce que quand on est nombreux dans un territoire, eh bien, on peut développer ces transports en commun et en plus, on a tout ce qu'il faut pour se déplacer un peu moins. Et dans les campagnes, on a plus besoin de la voiture. Eh bien, ça ne veut pas dire que une mesure justement pour limiter les véhicules devrait être appliquée de la même manière dans des villes que dans la ruralité. Il est intéressant, et ça c'est une thèse du livre, de différencier les politiques publiques et les mesures en fonction de si c'est un territoire urbain ou si c'est un territoire rural. Et je suis entièrement favorable à une contribution climat-énergie ou une taxe carbone pour inciter la sortie des énergies fossiles et aller vers les énergies renouvelables, surtout la sobriété et l'efficacité énergétique. Mais je pense qu'il est primordial de ne pas appliquer cette mesure avec la même temporalité, la même assiette, le même montant pour des personnes et des familles qui vivent en territoire rural, parce qu'ils apportent d'autres services, les territoires ruraux apportent d'autres services dont les villes ont besoin, et parce qu'ils ont besoin de la voiture pour travailler. Donc ça, c'est pas très compliqué d'imaginer, on a des systèmes de récolte des données et on pourrait accompagner les citoyens et les familles de manière assez sophistiquée et holistique d'un point de vue fiscal et d'un point de vue subvention, on pourrait très très bien différencier les politiques publiques et se dire autour des grandes agglomérations urbaines, on va travailler sur une contribution climat-énergie pour faire sortir les transports de l'énergie fossile et dans la ruralité, on a un accompagnement différencié et ça, on est tout à fait capable de mettre ça en place. Je terminerai en disant que mon empreinte écologique globale a diminué depuis que je vis à la campagne, malgré le fait que j'utilise plus la voiture. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important à rappeler. Et j'ai pas trouvé d'études très sérieuses sur la France qui compare l'empreinte carbone dans les villes et l'empreinte carbone dans les campagnes. J'en ai trouvé une qui est sur d'autres pays européens, mentionnés dans le livre, et on trouve plutôt le contraire, que c'est dans les villes où les personnes ont une empreinte carbone plus élevée que dans les campagnes, notamment pour leur activité loisirs et aussi pour leur consommation qui est plus élevée. D'autres produits, des objets, de l'alimentation, etc., et avec plus d'empreinte carbone dans la consommation. Et la réalité, c'est que non seulement on peut compenser une hausse d'une empreinte carbone à cause de l'usage de la voiture dans les campagnes par une consommation globale plus sobre et avec des modes de vie plus sobres, mais aussi on peut contribuer plus facilement même à la régénération de la biodiversité et à la lutte contre le changement climatique. Et ce que moi, je ne peux pas mettre dans les calculateurs carbone aujourd'hui, quand je fais le calcul, je ne peux pas dire, par exemple, que on a une ferme avec 3 hectares qui absorbe du carbone et on génère de la biodiversité et donc on est positif aussi dans ce sens-là sur les questions climat et carbone. Et ça, c'est pas, ça n'entre pas aujourd'hui dans des calculateurs carbone qui sont un petit peu trop simplistes. Donc, je trouve qu'ils sont importants pour comprendre comment on peut jouer sur notre empreinte écologique. Mais il faut surtout pas stigmatiser les campagnes et les personnes qui y vivent en disant vous, vous êtes plus polluants parce que vous utilisez la voiture. C'est pas du tout une réalité globale.
Oui, alors justement, oui, c'est vrai, tout à fait. Par contre, on sait la difficulté qu'il y a à faire venir des petites entreprises dans nos régions parce que les patrons, les directeurs disent oui, nous on veut bien venir, mais on a un petit souci, c'est que les cadres, eh bien souvent c'est les femmes qui s'y opposent. Vous avez un avis là-dessus ou pas ?
Les cadres, c'est les femmes qui s'y opposent. Ça, je pourrais pas me prononcer là-dessus. C'est la première fois que j'entends ce constat. Ce qui est sûr, c'est que les entreprises et l'entrepreneuriat dans les campagnes ont un bel avenir si on est d'accord pour reconnaître que on devrait modifier un petit peu la fiscalité et les politiques financières au sein des entreprises et de ressources humaines. C'est-à-dire que je décris dans le livre une responsabilité qu'ont les grandes entreprises notamment, mais aussi des PME, dans les zones urbaines, à se dire bah, la ruralité nous apporte des services. Et d'ailleurs, c'est pas juste les entreprises qui doivent s'en rendre compte, c'est l'ensemble des décideurs, qu'ils soient dans le privé ou dans le public. Mais sans la ruralité, nous n'avons pas des espaces qui ont une aire, l'air qui est moins pollué, des ressources naturelles qui servent à apporter d'autres services écosystémiques et aussi des espaces qui permettent à des personnes de produire de la nourriture en plus grande quantité. Par ailleurs, les usines et là où on fabrique aussi les vêtements, c'est pas non plus au sein des centres-villes. Donc, il est temps que nous voyons autant dans la fiscalité publique, évidemment, chez les institutions, mais aussi chez les entreprises, une sorte de responsabilité de soutien envers les territoires ruraux qui doit se matérialiser par, je préconise, une taxe en faveur, une taxe de solidarité envers les campagnes, notamment payée par des entreprises urbaines. Et ce n'est pas quelque chose qui est si étrange et si farfelu parce que les entreprises vont bénéficier s'ils soutiennent les campagnes qui sont autour, pour les raisons que j'ai mentionnées, et aussi le bien-être de leurs salariés. Il y a de plus en plus de personnes, des cadres, qui souhaitent vivre avec un peu plus d'espace, avec un peu moins de pollution sonore, un peu moins de pollution visuelle, un peu moins de pollution de l'air et des sols, etc., et qui pensent justement à leur famille. Donc, pour moi, les familles, de plus en plus, souhaitent justement avoir des cadres de vie qui sont beaux et qui sont plus sains. Et quand on regarde des sondages, on voit que 6 cadres sur 10 souhaitent justement vivre en dehors des grandes villes, qu'à Paris, ce chiffre est encore plus élevé, et Paris d'ailleurs est en train de perdre la population. Et donc, les entreprises ont tout à gagner en termes de productivité au sein de leur structure, à soutenir la volonté de leurs salariés, à pouvoir vivre peut-être un peu plus éloigné, peut-être d'installer des micro-antennes dans les ruralités, dans les territoires ruraux, pour les soutenir, parce que ça crée aussi une autre dynamique. J'ai entendu le président du MEDEF d'Île-de-France parler d'une baisse de productivité des salariés. Selon lui, c'est pas quelque chose qui est encore démontré d'un point de vue statistique, mais c'est ce qu'ils sont en train de se dire lors des assises de l'adaptation au changement climatique d'Île-de-France. Le président du MEDEF d'Île-de-France avait remarqué que la baisse de productivité dans les entreprises qui vivent en ce moment, il pense que c'est aussi dû à des conditions climatiques, à une hausse des températures et aussi à une dégradation de l'environnement. Et ça, c'est super intéressant parce qu'ils reconnaissent aujourd'hui que le lien entre un cadre de vie et un cadre de travail qui est sain et moins pollué, ça peut aussi avoir un impact sur la productivité au travail. Donc pour celles et ceux qui sont cyniques sur le plan économique en concernant est-ce que c'est intéressant de préserver l'environnement et aussi de promouvoir la ruralité, ben vous avez des arguments qui vous contredisent, dans le sens où même le MEDEF, qui est vu comme une instance qui promeut la productivité, la compétitivité des entreprises au plus haut niveau, eh bien, elle se pose des questions, il se pose des questions sur est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment être engagé dans l'amélioration de notre cadre de vie et de cadre de travail sur le plan environnemental.
Alors, si je vous ai posé cette question, c'est pas anodin, parce que à l'époque où j'étais à la mairie de Craponne, avec le maire, on avait justement rencontré des chefs d'entreprise pour leur dire, ben, nous, on a de l'espace, vous pouvez venir et tout. Et c'est là qu'ils nous avaient rétorqué un petit peu cette opposition des femmes de cadre qui disaient, ouais, mais on va aller à la campagne, qu'est-ce qu'on va faire, si ça. Bon, mais ça, c'est, moi, je trouve que c'est pas un argument. C'est pas un argument.
En tout cas, ce qui est important, c'est de se rappeler que là, on a parlé des entreprises du secteur privé. Les services publics, les écoles, les médecins doivent être présents dans les campagnes. Malheureusement, le désert médical doit être traité. On a une espérance de vie qui est moindre dans les campagnes pour les personnes. Mais pour la simple raison qui est que quand les personnes arrivent vers les âges très élevés, il y a de moins en moins de facilité à être soigné, pour des raisons de disponibilité et de nombre de médecins, et aussi pour des questions de logistique et de déplacement. Donc je tiens vraiment à relativiser ce chiffre qui a été mis en avant, ce fait qui a été mis en avant par l'Association des maires ruraux de France dans un rapport, et que je cite dans le livre, parce que la réalité, c'est que nous vivons quand même, je mets ma main à couper, dans les meilleures conditions de vie à la campagne, d'un point de vue cadre de vie, air, sol, nourriture, etc., pour que la santé globale sur tout au long d'une vie soit meilleure à la campagne. Mais c'est la tristesse aujourd'hui, c'est que les médecins sont moins nombreux dans les campagnes et on n'est pas en train d'arranger le problème. Donc je discute de ça dans le livre. Deuxièmement, les écoles devraient être maintenues et pas évaluées avec le même prisme que dans les territoires urbains. C'est-à-dire, encore une fois, utiliser les mêmes indicateurs pour évaluer des services publics ou des infrastructures ou des institutions dans la ruralité que dans l'urbain est une mauvaise façon d'évaluer justement la diversité des territoires. Et une école ne devrait pas être fermée parce qu'elle est soumise à la même évaluation du nombre d'élèves que dans un territoire urbain. Justement, la distance entre deux écoles dans les territoires ruraux et la distance entre les élèves et une école devrait être aussi prise en considération pour qu'on maintienne des écoles dans les campagnes. Et c'est une tristesse aussi pour moi qui travaille avec beaucoup d'établissements scolaires dans le cadre de notre association dans notre pays, d'être contacté plusieurs fois dans l'année par des écoles qui souhaitent travailler avec nous juste pour avoir un projet qui redynamise l'école et qui lui donne une image belle auprès des communes et du territoire autour, parce qu'elles ont peur de perdre des élèves et de fermer. Et enfin, les services publics doivent suivre. Tout ça, ça règle le problème de cette crainte qui est d'aller dans les campagnes qui sont vides d'activités, vides des services et vides d'emplois. Ce n'est pas une réalité. Si nous investissons dans les campagnes et que les services se suivent et sont maintenus, si on utilise des indicateurs différents, si on est un peu plus intelligent dans comment on s'aperçoit de la richesse d'un territoire, eh bien, nous allons repeupler les campagnes avec beaucoup de succès et de réussite, et justement recréer des micro-sociétés, des petites communes qui vont avoir à la fois la diversité et l'équilibre qui est nécessaire, mais aussi beaucoup plus de bien-être, parce que le lien social, la solidarité est plus facile quand on est un petit peu moins nombreux et dans des communes à taille humaine. Et c'est ça que j'ai retrouvé et que nous retrouvons très souvent dans les campagnes. C'est cette capacité à connaître les personnes autour de soi un peu plus, d'être un peu plus en interaction, un peu plus dans la solidarité, et d'ailleurs un peu plus dans les savoir-faire et dans la sobriété. Et c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant de travailler sur le lien entre l'écologie et la ruralité, parce que souvent, il y a des pratiques beaucoup plus éco-responsables et sobres naturellement dans les campagnes, des pratiques qui ont perduré, sans que les personnes le revendiquent. Et ça, j'ai trouvé très intéressant, et c'est cette humilité aussi que j'ai appréciée.
Donc là, bien sûr, il faudrait une vraie volonté politique, hein, parce que il faudrait peut-être changer de politique, comme on disait, pour une histoire de taxes et tout. Quand on sait qu'une commune, une petite commune, a des dotations la moitié qu'une ville, là, c'est pas très logique, en fait, hein.
Oui, c'est pas très logique que des communes rurales qui ont moins de population reçoivent une DGF qui est juste moitié moins. Encore une fois, il faut voir ce qu'apportent des territoires ruraux sur le plan écologique, sur le plan de ce qu'on appelle d'ailleurs, ce qui a été appelé dans un rapport du gouvernement, hein, sur les aménités rurales. Les aménités rurales voulant dire des paysages, un service d'absorption de carbone, un service de biodiversité qui est maintenu. Encore une fois, je relativise bien sûr les forêts et la biodiversité en France, qui est quand même très domestiquée par l'humain, mais c'est pas des forêts originelles, etc. On a la nature en France, elle a été beaucoup façonnée par l'humain, mais ça, il reste tout de même beaucoup plus de naturalité dans les campagnes. Et pour cela, ça mérite une rémunération et une dotation qui est plus élevée, ou au moins que ce soit pris en compte dans la dotation, et que nous ne pénalisions pas les campagnes juste parce qu'elles ont moins de population. Si elles ont moins de population, ça veut aussi dire qu'il y a d'autres atouts, et il y a des atouts écologiques qui sont très élevés dans les campagnes, autant sur le plan climat et carbone que le plan biodiversité. Donc cela est à valoriser, et c'est une volonté politique effectivement qu'il faudrait intégrer pour se dire que aujourd'hui c'est une erreur d'avoir à peu près 80% de la population répartie sur moins de 20% du territoire français face au changement climatique, face au problème de la biodiversité, et qu'il faudrait rééquilibrer les choses. Je n'ai pas une stigmatisation à faire des villes ni des citadins, mais on est dans un déséquilibre. On est dans un déséquilibre, une déconnexion assez grotesque dans les villes, une déconnexion avec la nature, avec ceux qui produisent les objets, la nourriture et tout ce qui est utile pour notre quotidien. Et donc c'est un rééquilibrage qu'il faille mener.
Alors vous disiez tout à l'heure parler de l'exode urbain, on a connu l'exode rural. Connaîtra-t-on l'exode urbain? Ça paraît quand même un petit peu difficile, mais est-ce que on voit que tout doucement quand même des gens prennent conscience, il vaut mieux venir à la campagne, peut-être gagner un petit peu moins, mais dépenser beaucoup moins, hein, parce qu'il y a quand même moins de frais quand on est dans nos communes.
Tout à fait. Il est possible de vivre un peu plus facilement avec moins à la campagne. Alors, je tiens aussi à déconstruire l'idée reçue que ça coûte cher de déménager. Ça peut coûter de déménager, absolument. C'est aussi un coût logistique, ça peut être un stress, et il ne faut pas le sous-estimer. Donc, je tiens à ce qu'il y ait aussi des incitations fiscales et des incitations dans les entreprises pour aider les personnes qui souhaitent déménager et vivre dans des territoires ruraux, dans plus de sobriété, avec des projets de vie aussi un peu plus éco-responsables. En revanche, il faut être honnête sur la disparité des prix de l'immobilier dans les zones urbaines, qui sont des prix beaucoup plus élevés, jusqu'à 5 fois plus élevés dans les agglomérations urbaines que justement dans les départements où il n'y a pas de grandes villes. Donc c'est une idée fausse qu'il est plus, que cela coûte plus cher d'acheter ou de louer dans les campagnes. Au contraire, c'est moins cher. Et ça a été le cas même sur le plan personnel pour nous. On a retrouvé quasiment le même prix. On en passe notre maison en passant de 37 mètres carrés jusqu'à 450 mètres carrés. Donc cette idée que c'est plus cher et c'est plus difficile financièrement de vivre à la campagne, elle est fausse. Par ailleurs, il ne faut pas négliger le fait que nous, tous nos voisins, ils ont leur propre jardin, ils produisent une partie de leurs propres légumes. C'est aussi des économies qui sont faites. Et ce n'est pas négligeable sur toute une année. Que ce soit le poulailler aussi ou les animaux, il y a des économies à faire qui sont un peu plus faciles. Et c'est une question d'organisation. Et en plus, nous, on est beaucoup plus heureux à contribuer à produire de la biodiversité comestible, à produire des légumes, à produire de la nourriture. C'est un réel bonheur. Et donc, c'est pour ça que nous encourageons toutes et tous qui sont intéressés à la fois par être plus éco-responsables, mais aussi plus heureux et plus sobres, de vivre de cette manière-là, sans être un exemple. Il y a plein de façons de le faire, mais c'est accessible à toutes et tous.
Voilà, Henri Landès nous parle de son dernier livre, Repeuplons les campagnes. Donc, vous êtes l'exemple vivant, hein, comme je disais tout à l'heure. Ça fait 3 ans que vous êtes ici, je crois, 3-4 ans non, déjà.
3 ans, oui, 3 ans.
Ouais, 3 ans, donc on voit que vous êtes adapté à la vie rurale, hein. Là, c'est vraiment la vie rurale, et que vous avez trouvé peut-être votre bonheur, on peut dire, aller jusque-là.
Absolument, absolument. On ne reviendra pas en arrière. Ça ne nous manque pas, la ville. Nous y allons de temps en temps, mais on est beaucoup plus heureux dans notre lieu-dit à Chaumont, à Boisset. Et on adore beaucoup, on adore Craponne. Et c'est pour ça que j'y viens le 11 juin pour une séance dédicace à la librairie Au plaisir des mots de 9h à 12h. Avec une petite conférence vers 10h30 juste devant la librairie, et c'est un plaisir de pouvoir à la fois venir au marché mais côtoyer les personnes et les habitants de Craponne, et aussi de cette partie de la Haute-Loire. C'est un réel plaisir.
Marie Landès, merci d'avoir été avec nous. Donc, Repeuplons les campagnes, On espère que c'est un vœu qui va se réaliser, hein, pour voir un petit peu ben, ces villes se désengorger déjà, hein, parce que c'est vrai que, comme vous disiez, il y a du mal pour se loger ou ça coûte très très cher, alors que chez nous quand même tout est accessible. Et puis, pour conclure, on dira qu'au moins on a le bon air.
Absolument.
Merci d'avoir été avec nous. Donc rendez-vous le 11 juin, hein, vous serez au plaisir des mots chez Marie-Pierre et Viviane. Là, les gens pourront vous rencontrer, vous pourrez échanger, hein, pour certains qui auront sûrement des questions à vous poser.
Avec plaisir, merci à vous.
Merci beaucoup, au revoir. Bonsoir Henri, au revoir.
Bonsoir.
Voilà, Henri Landès, c'était notre invité du jeudi. Repeuplons les campagnes, c'était son leitmotiv, hein, il a écrit, lui il a fait le pas, hein, avec Fanny Agostini, sa femme, ils ont fait le pas de venir à la campagne, pourtant comme il disait, ils avaient quand même des belles situations, mais bon, ils ont dit ça suffit pas, ils avaient envie d'autre chose. Eh bien, pour illustrer un petit peu cette émission, on va, pour terminer, écouter l'ami Bourvil, qui nous interprète tout simplement à la campagne.
On chante tout le temps Paris, la place Pigalle, les îles des Tentants ou les beautés fatales. Moi, je vais chanter mes chants et d'une voix très ferme, ouvrant ma bouche en grand. Je vais chanter la ferme de mon pays, ses bois et ses prairies, la si jolie Julie, et même sa laiterie. À la campagne, avec ma compagne, on vit bien tranquille comme deux insouciants. À la campagne, avec ma compagne, on est bien heureux près de nos deux bœufs. Quand il faut semer, tous les jours on sème, et le soir quand on a semé, alors on s'aime. Car vous le comprenez, c'est bon de s'aimer avec ma compagne. Ah, cette vache-là, à la campagne. On fait fête aux moissons quand les oiseaux gazouillent, lorsqu'on tue le cochon, quelle joie de faire l'andouille. Moi, je me plais au grand air, car j'y travaille à l'aise, et je vis bien sur mes terres, où toujours ne vous déplaise, des murmurions. Des bêtes bécoteront, des cris-cris-cris seront, des épipis pousseront. À la campagne, avec ma compagne, on rit, je le confesse, comme une paire de fous. À la campagne, avec ma compagne, on mange à gogo comme de satisfaits. Du travail au champ, jamais on ne s'en lasse, et le soir nullement lassé, vite on s'en lasse. Car vous le comprenez, c'est bon de s'en lasser avec ma compagne. Ah, cette vache là, on peut pas être tranquille à la campagne. Pendant les mois creux, l'on chasse et l'on pêche, et le soir quand on a pêché, alors on pêche. C'est ainsi qu'est né, né un nouveau-né, avec ma compagne. Hein? Oh, tu es famille alors, à la campagne.
Voilà Bourvil, fabuleuse chanson. Notre invité du jeudi, Henri Landès, Repeuplons les campagnes, c'était donc avec lui. Vous retrouverez cette émission, bien sûr, qui est rediffusée les lundis à 22h, les mardis à 19h et les mercredis à 12h30. Cette émission est maintenant terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.
Champignons, couper du bois, prendre l'air à la campagne, on se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, y a des lieux pleins d'histoire. Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. À la campagne, quand on est citadin. À la campagne, on demande aux paysans le temps qu'il fera demain. À la campagne, on veut de l'authentique, du feu de cheminée et du produit régional. À la campagne, il nous faut du rustique, un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral. À la campagne, on dit qu'on voudrait rester, quitter Paris, le bruit, le stress et la pollution. À la campagne, c'est la fête aux clichés, la qualité de vie et le rythme des saisons. À la campagne, on se prête des pulls quand on traîne sur la terrasse. À la campagne, il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces. À la campagne, la nuit on ferme des volets. Il y a des bruits dans la maison et dehors dans la forêt. À la campagne, dans mon lit, plutôt crevé, je préfère pas fermer l'œil et flipper. À la campagne, en principe, on se lève tôt. Pas moi, je dors encore, pour les raisons que vous savez. À la montagne, il y a des chalets, des chamois. Mais c'est pas l'objet de cette chanson, je voulais juste voir si vous suiviez. Campagne, quand arrive le dimanche soir, à la campagne, pour éviter les bouchons, on va peut-être pas rentrer trop tard. À la campagne, j'ai envie d'être campagnard, d'avoir une grosse moustache et un gilet en velours. À la campagne, j'ai envie de parler terroir, je m'en vais à sacler le calanchet pour pas qu'il vente dans les labours. Ça me donne envie d'être robuste et taiseux, le patriarche bourru d'une série de l'été de France 2. L'histoire d'une famille qui lutte pour son domaine, mais j'ai jamais le temps parce que je reste que le week-end. À la campagne, entends-tu au loin le cri de la grivette cendrée? À la campagne, s'il neige à la Noël, je rentrerai les bistouquets dans les tables.